Bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar.
Prends ça, Sirard !
Retweet.
Bonsoir à tous. Pas bonsoir Méduse. Parce que Méduse n'est pas. Méduse est indisposée. voilà, c'est la période menstruelle des poulpes, donc il n'est pas là. Voilà, donc blague à part, Méduse a énormément de travail en ce moment. Il est très fatigué, donc c'est un petit peu compliqué pour lui de venir ce soir. D'ailleurs, vous avez peut-être pu remarquer si vous suivez l'actualité sur le dojo que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. On a un petit peu de retard. Parce que ben, c'est lui qui assurait une grande partie de l'actualité et que du coup, ben, voilà, quand même un petit passage à vide, on va dire. Mais qu'on essaye de rattraper. Donc, Méduse, je propose de faire une minute de silence.
Pour Méduse.
Pour Méduse. Voilà, maintenant que la minute de silence est faite, on va pouvoir enchaîner. Fro, tu fais du Larsen.
Ah ouais ?
Juste, oui, tu fais un petit peu de Larsen, c'est pas grave. Une émission ce soir exceptionnelle puisque je vais j'ai un peu mal à la gorge donc je vais sucer en direct des pastilles hein, je vous rassure.
Toujours la classe.
Comme d'habitude, la grande classe internationale. Donc ce soir nous allons parler de Rogue Squadron, de toute la série Rogue Squadron, Rogue Leader, Rebel Strike et éventuellement les quelques petits spin-offs qu'il y a eu entre les deux. Ce sera la première partie de l'émission. Et la deuxième sera consacrée à une question un petit peu plus, je dirais, philosophique. Êtes-vous des compléteurs ou êtes-vous des finisseurs ? C'est-à-dire, est-ce que vous essayez de finir vos jeux à 100% ou est-ce qu'une fois que vous avez vu le générique de fin, bah, vous arrêtez et puis c'est tout ? Voilà. Mais avant tout, nous allons commencer par le tour de table de l'actualité. Et comme Frosties est chaud du cul...
Je suis chaud du cul,
là. Ouais. T'es... Non, mais je sens que t'es chaud. Je sens que tu... Voilà. Je sens que c'est... Je sens que c'est la forme.
Et tu fais pas le tour des invités avant le tour de table de l'actu?
C'est vrai qu'il faut que je fasse le tour des invités.
Ah oui, la politesse, mais ça
se perd. Je suis tout perdu, moi, quand il y a pas Méduse. Voilà, c'est ça le truc.
On perd le Belge et on perd la politesse au passage.
On perd la politesse au passage. C'est normal. C'est normal. C'est comme quand on perd les Canadiens. Voilà. Ça peut pas marcher. Donc. Ce soir, pour m'accompagner, nous avons Antix, l'homme Reverso. Le pourfendeur de Bayonetta, le brawler devant l'éternel.
Toujours.
Voilà, nous avons Kaliken de DS in Paris.
Salut.
Voilà, qui fait plaisir de revenir. Il n'était pas là, il n'a pas pu venir la semaine dernière, mais il y a deux semaines, mais il revient là. Et nous avons Frosties, donc, de Nintendo Man, qui fait des trucs de temps en temps.
Il fait des trucs de temps en temps.
Il retweet des machins en direct.
Voilà. En signant très fort. Voilà.
D'une certaine manière, c'est ça. Donc, je laisse Frosties commencer par nous parler de ce qu'il voulait nous parler.
Je voulais vous parler de quoi ? Ah oui, bah des amiibos. Des amiibos.
Les amiibos, alors attends, c'est les amiibos domestiques ou c'est des amiibos sauvages ?
Les amiibos domestiques. Les amiibos. Non, en fait, vu que ça sort bientôt, je sais plus quelle date exactement, mais c'est en décembre, je crois. Non, le 28 novembre. Il y a les 12 premières figurines des Amiibo qui sortent, donc dans un tout petit peu plus d'un mois. Et on sait toujours pas à quoi ça va servir, à part un tout petit peu dans Smash Bros.
À trouer ton portefeuille parce que tu vas être obligé de toutes les acheter.
Non, alors voilà, c'est ça en fait, c'est la grande question. Est-ce qu'on va devoir tous les acheter ou en acheter aucune en fait ? Puisqu'on sait pas à quoi ça va servir. Et aujourd'hui, il y a le Twitter de Nintendo America qui a tweeté un truc... en disant que la figurine de Link serait compatible avec Hyrule Warrior. Et qu'il va falloir rester aux infos, on va dire. Enfin, il n'y a pas plus d'informations, en fait. On ne sait pas à quoi ça va servir. Peut-être débloquer Link, on ne sait jamais.
Ou je pense qu'il est déjà débloqué.
Non, on ne sait pas.
Je pense.
Peut-être un nouveau perso,
problème...
un nouveau
non, non, skin, le problème, c'est à quoi ça peut servir, en fait. C'est surtout ça, parce que c'est... Ok, ça peut interagir. On a un objet physique qui peut interagir avec la console, mais finalement... C'est pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire avec.
C'est un peu triste. Pour l'instant, on sait rien. C'est ça, c'est un peu tristouné en fait, puisque ça va être dispo pour plusieurs jeux. Puisqu'il y a comme jeu, il y a Smash Bros. Bah, bientôt, Mario Kart 8, Mario Party 10, Captain Toad et Yoshi Woolly World là. Et on sait pas, ouais, on sait vraiment pas. Même pour Mario Kart, tu vas déposer ta figurine Mario sur ton truc pour Mario Kart 8. Bon, bah, super, quoi. On sait pas à quoi ça va servir, mais pas du tout.
Alors, c'est-à-dire que, enfin oui, c'est vrai que globalement, parce que, enfin je sais pas, c'est assez statique quand même. C'est-à-dire que le jeu peut reconnaître que tu as la figurine X, Y, Z, mais à part ça, pas trop ce que tu vas faire avec.
Bah, à part ça, si on regarde dans ce calendrier Disney Infinity, bon bah ça fait t'interagis pas vraiment au final. Tu poses ta figurine et tu joues avec ton perso, quoi. C'est tout simplement ça.
Oui, t'aurais pas la figurine, ce serait pareil.
Bah t'aurais pas de perso, enfin oui, au final oui la figurine ne sert pas à grand chose hein. Et là le problème c'est que les personnages sont déjà disponibles dans le jeu, c'est ça le souci en fait.
Ouais, bah,
Link dans Hyrule Warriors, bon bah super quoi, mais ça va pas te débloquer un nouveau Link hein.
Est-ce qu'on sait combien de mémoire il y aura sur ces figurines, si on peut stocker beaucoup de choses ou...
C'est du NFC, c'est même quoi. Je ne suis pas trop commencé.
Mémoire, c'est plus quelques kilooctets.
Hein. Ouais, tu peux pas mettre de vidéos, des trucs comme ça. C'est vraiment des données de sauvegarde et des trucs comme ça.
Alors, puis en plus, connaissant Nintendo, si la norme prévoit 4 kilooctets, ils mettront 1, histoire de bien. Enfin, oui, de faire comme d'habitude, quoi.
Histoire de bien. Faire un truc un peu.
Non, mais bon, c'est un truc qui va prendre la poussière sur ta télé, c'est après tout, quoi. Je pense que. On s'est tous fait à l'idée que de toute façon, ça servirait qu'à ça.
Ouais, quasiment.
Je te sens tellement enthousiaste quand t'en parles, je me dis que
j'ai les figurines pour Disney Infinity 2.0, là, les trucs Marvel, j'ai pas toutes, mais du coup en fait c'est les figurines Nintendo, moi ça m'intéresse un peu plus vu que c'est t'as ton petit Mario, t'as ton petit Link, c'est juste pour du fanboy. Hein,
Là sur Twitter, je vois il y a dans ton chat qui vient de nous dire que c'est déjà des figurines à collectionner, c'est déjà pas mal, ce qui est pas faux.
Ce qui est pas faux, et puis c'est pas très cher, donc au final tu peux quand même.
Ils sont à 13€, 13-14€.
Ouais, c'est entre 12 et 15, ça dépendra des magasins comme d'hab, quoi, on sait pas trop. C'est 12€, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas excessivement cher, si t'en veux 3-4, ça va, quoi, mais bon, c'est encore 50 balles de. Pour pas grand chose au final.
D'accord, pour l'instant, c'est vrai qu'on attend d'avoir une utilisation un petit peu originale ou utile ou sympathique dans un jeu, mais quand même pas grand-chose, quoi.
Bah, pour Smash Bros, ça va être une IA, normalement, avec un peu de données à l'intérieur, des choses comme ça. Ça va pas être foufou non plus, quoi, parce que moi, si je joue à Smash Bros, j'ai pas forcément envie de voir ma petite figurine jouer à ma place. Donc, je vois pas trop l'intérêt du truc non plus, donc... Si encore ça débloquait des nouveaux persos, des nouveaux mondes, des choses comme ça, à la limite, ce serait cool, mais là, pour l'instant... Non.
Oui, ce serait une espèce de DLC, mais de DLC physique, c'est-à-dire que t'achètes la figurine, et en réalité, il y a la clé de déblocage du personnage en question.
Ouais, voilà.
Ouais, le problème, c'est que tu serais obligé de le faire pour des personnages super secondaires. Je pense à Smash Bros, tu vas pas dire, le jeu, il n'y a pas Mario, faut acheter la figurine. Là, ça le fait moyen.
Donc, de toute façon, toutes les figurines Amiibo sont dans Smash Bros, déjà, les personnages.
Et inversement. Je dis
pas
la merde.
Encore.
Bref, bon pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu le mystère. On fera peut-être un petit sujet sur les amiibo quand ce sera sorti, puisque je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se laisser tenter.
De toute façon, il y a un direct pour Smash Bros.
Ce jeudi soir très tard ou vendredi très tôt, je sais plus.
Ouais, voilà. Très tôt, minuit 1.
C'est vendredi très tôt. Voilà, je vais laisser Antix nous parler d'un album de remix, si je dis pas de bêtises.
Exactement, alors c'est un gros album de remix, uniquement en digital, qui s'appelle Harmony of Heroes, qui est une compilation de 101 thèmes musicaux, tous issus de Super Smash Bros. Donc quand je dis des thèmes musicaux, ça reprend aussi bien les... Donc c'est des remixes parfois, des musiques qui ont déjà été remixées, de Mario, de Zelda et compagnie, mais aussi du remix des thèmes propres à la série Smash Bros. On a un petit peu de tout, ça couvre à peu près tous les univers, même s'il y en a qui sont un peu plus présents que d'autres, comme Zelda, qui est vraiment énormément là. Il y a beaucoup de styles de musique, il n'y a pas beaucoup de hip-hop de mémoire, pas trop de dubstep, et on a quand même quelques morceaux un peu métalleux bien dégueulasses. Mais dans l'ensemble, il y a aussi des très bonnes surprises, dont un thème jazz de Zelda.
C'est pas mal, ça.
Ce qui est plutôt réussi, c'était vraiment une bonne surprise. Qu'est-ce que j'ai pu entendre d'autre? Le thème du combat contre King Carol à la fin de Donkey Kong Country, repris façon taverne de pirates avec les cris des pirates derrière qui était vraiment très très bien. Et pas mal de. Et de manière générale, j'ai trouvé que les meilleurs remixes étaient ceux des thèmes de Smash Bros. Enfin, vraiment les thèmes originaux de Smash Bros. Qui ont des bonnes surprises et qui sont toujours très sympas à entendre.
Et pour savoir, c'est gratos,
ça se trouve, où, ça marche comment?
J'attendais votre question, mes amis.
Est-ce que c'est compatible avec les amiibo?
Ouais, est-ce qu'on peut stocker les trucs?
Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés par cette marchandise exclusive, vous pouvez télécharger ça sur le site de Harmony of Heroes, harmonyofheroes.com.
Gratuitement.
Gratuitement, puisque de toute façon, ils se feraient attaquer s'ils devaient faire payer parce qu'ils n'ont pas les droits. Et vous pouvez faire ça en torrent ou en téléchargement direct, sachant qu'il y a au moins 1 gigaoctet de musique. Et qu'il y a une version. Et qu'il y a une version, t'as en version MP3 et une version pour les hardcore de la musique qui veulent absolument sans perte, il y a aussi ça.
Voilà, d'accord. Donc pour les gros aficionados de la musique, on peut avoir la version FLAC ou un truc comme ça qui permet d'avoir la qualité.
C'est du M4A. Je connais pas le format.
Donc c'est pas du sans perte. Enfin, c'est du.
Ils ont l'air de dire que c'est du sans perte, mais j'imagine que ça va être un peu compressé. Je connais pas le format, honnêtement.
Il n'y a pas de perte normalement là.
C'est vrai que sorti de son contexte, c'est pas terrible non plus ça comme phrase.
C'est pas les médias.
Bref. En l'occurrence, il y a un peu de perte avec Méduse. Moi, je vais vous parler, donc, pour terminer ce tour de table de l'actualité, maintenant qu'on a fait des figurines, donc, du petit joujou pour adultes, ça sonne très mal, ça aussi. Maintenant qu'on a fait du petit joujou pour adultes et qu'on a fait de la musique, on va faire un petit peu de technique. Vous savez que la GameCube est une console absolument exceptionnelle.
Exactement. Bah, oui.
Voilà, c'est la meilleure console du monde.
Voilà, comme la Wii.
Ouais, comme la Wii. Elle est exceptionnelle à plus d'un titre, notamment parce qu'il y a plein de sorties vidéo disponibles. En fait, à l'arrière de la console, il y a une sortie sur les premiers modèles, en tout cas, il y a une sortie Heavy Out et une sortie Digital Out. La sortie Digital Out a été supprimée sur les modèles très tardifs, mais sur les modèles les plus courants, en réalité, les premiers modèles, vous avez les deux. Et donc, par défaut, la console était livrée avec un câble composite. Donc A, Berk, bas, du composite, peu, c'est moche.
Même du Péritel en France.
Non, alors c'était quand même du composite, ça change rien.
Ça change c'est rien. Juste
le... Okay. Ouais, c'est le signal était du composite, après t'avais une prise Péritel au bout, mais c'était quand même du composite. Et donc c'était assez facile aux États-Unis ou en Angleterre de se procurer un câble S-Video pour améliorer un petit peu la qualité d'image. Et en Europe, enfin dans l'Europe continentale, on avait la chance d'avoir à disposition des câbles RGB qui permettaient d'avoir une excellente qualité d'image, mais toujours en 240p, c'est-à-dire dans une résolution assez
de
faible.
Merde.
Faible. Pas forcément de merde, faible. Aux États-Unis, les jeux en NTSC, donc les jeux japonais et américains, avaient un mode de fonctionnement 480p, donc dit mode de fonctionnement Progressive Scan, qui permettent de jouer au jeu en 480p 60, donc là, avoir vraiment la qualité d'image la meilleure qu'on puisse espérer pour un jeu GameCube, donc 480 lignes, image claire, 60 images par seconde. Mine de rien, il y a énormément de jeux GameCube qui sont compatibles, à peu près 95% de la ludothèque GameCube est compatible Progressive Scan. Mais le problème, c'est que pour pouvoir profiter de ça, il fallait utiliser la sortie Digital Out, donc aller acheter un câble component chez Nintendo, et quand je dis chez Nintendo, c'est vraiment chez Nintendo, puisqu'il était en vente que sur le site web de Nintendo Japon ou de Nintendo of America. Résultat des courses, ce câble est extrêmement rare, à tel point que sur les sites d'enchères américains depuis quelques semaines, c'est facile de voir des câbles component partir à plus de $200.
Putain,
si vous imaginez $200 un câble, c'est hyper cher. Et donc il y a des gens qui se sont dit, attends, c'est juste pas possible, personne s'est attaqué au problème jusqu'à présent, on va en commander un, on va se cotiser à 3-4, on va en commander un, on va le démonter, on va regarder comment c'est fait, puis on va essayer de trouver une méthode pour fabriquer un câble component GameCube, parce que là, ça devient juste plus gérable, quoi. Surtout que Nintendo ne souhaite plus en fabriquer, a priori. Et donc, il y a des mecs du forum schmup11.org, que vous connaissez peut-être, qui se sont attaqués à ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils se sont cotisés, ils en ont acheté un, ils l'ont démonté, et ils ont commencé à reverse-engineer le truc, à essayer de voir quels composants il fallait dedans, comment c'était câblé à l'intérieur de la machine, et ainsi de suite. Et ça fait à peu près une semaine qu'ils ont réussi à fabriquer leur propre câble component. Alors, pour l'instant, c'est assez route. C'est-à-dire que les mecs sont obligés de démonter la machine et d'aller souder directement le câble à l'intérieur sur la carte mère. Donc c'est un poil bourrin. Mais on a bon espoir, enfin en tout cas eux ils ont bon espoir que la méthode qu'ils ont utilisée puisse être réutilisée par un fabricant un petit peu plus, on va dire, officieux certes, mais un Datel ou un fabricant d'accessoires qui puisse refabriquer des câbles components pour GameCube qui permettrait à tout le monde de profiter d'une qualité d'image top, en tout cas dans les zones NTSC. Je précise que les jeux PAL ne sont pas compatibles Progressive Scan, donc même si vous achetez le câble component qui va bien avec les 5 petites fiches au bout pour GameCube, vous n'aurez que du 480i, donc une qualité d'image un petit peu inférieure avec du scintillement et tout le bazar. Voilà. Bah c'est tout. C'est aussi bête que ça.
Et donc, du coup, ils les ont rendus publics, les schémas?
Alors, tous les schémas sont publics, c'est publié sur GitHub. Je mettrai un petit lien pour vous montrer le truc. Donc, toute la méthode est expliquée. Il y a les schémas de câblage, il y a les schémas de montage, il y a les schémas de soudure, il y a les composants qu'il faut prendre. Si je me rappelle bien, les mecs, c'est pour quelque chose comme 11 ou 12 dollars plus un fer à souder. On peut se faire un câble component.
C'est ce que j'allais dire, même une GameCube NTSC, c'est pas non plus excessivement cher maintenant, quoi. D'occas ou autre. Par contre, voilà. Peut-être en France, c'est peut-être un peu chaud.
Alors en France, ça se trouve quand même, c'est pas difficile. Maintenant, ouais. C'est pas le plus simple pour jouer à des jeux NTSC. Aujourd'hui, le plus simple, c'est de prendre une Wii PAL, de la craquer et de faire tourner directement des ISO GameCube NTSC dessus.
Ouais, mais du coup, ton câble, ça marcherait aussi sur Wii?
Alors le câble, il n'y a pas besoin sur Wii, puisque les câbles components sur Wii, c'est quelque chose de beaucoup plus commun. Le seul problème, c'est qu'en fait, la Wii a une sortie component qui est plus floutée et plus bruitée que la GameCube.
Ouais, voilà.
Donc t'as une image qui est un petit peu moins bonne qualité sur Wii que sur GameCube, en tout cas pour la sortie component.
Ouais, peut-être moyen de bidouiller un truc, quoi.
Il y a peut-être moyen de bidouiller un truc, si ça se trouve c'est le câble qui est pourri, mais bon, voilà, je sais pas, personne s'est attaqué au problème jusqu'à présent. Parce que je pense que la Wii intéresse pas encore complètement les bidouilleurs, mais voilà, sur GameCube c'était très compliqué jusqu'à présent de jouer en 480p, enfin, ça coûtait très cher, de plus en plus cher. Là maintenant il y a une vraie alternative qui existe, donc pour tous les gens qui sont en zone NTSC ou qui ont une GameCube NTSC, ça peut commencer à devenir intéressant.
Mais ça peut être pas mal.
Voilà. Eh bien, on va faire une première pause musicale sur ces entrefaits. Et comme on va parler de Rogue Squadron tout de suite après la pause musicale, eh bien, on va écouter un petit morceau de l'OST de Rogue Squadron qui a été composé spécialement pour l'occasion, non pas par John Williams, mais par un de ses assistants, et qui a été enregistré par le Skywalker Orchestra, donc le vrai orchestre qui joue pour le film. Le morceau s'appelle Where is the Ship? Et c'est malheureusement le rendu N64, donc forcément un petit peu voilà, un petit peu compliqué, même si c'est un des jeux qui sonne le mieux sur N64. Je peux vous dire qu'on a vu largement pire. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. C'est toujours aussi drôle. Donc, on va parler de Rogue Squadron, qui est personnellement un de mes jeux N64 préférés et un de mes jeux GameCube préférés encore aujourd'hui.
Pareil aussi.
Pareil pour beaucoup de gens, en fait.
Enfin, moi, pareil pour GameCube uniquement, j'ai pas fait celui sur 64.
Faut pas y rejouer maintenant, ça fait un peu mal aux yeux, mais sinon il est vraiment classe, quoi.
Ça se fait, quoi, faut avoir...
Oui, ça se fait, ouais.
Ça se fait. Maintenant, c'est sûr que c'est pas aussi... Sur émulateur, ça passe un peu mieux.
Ouais, ça
un
m'a
peu moins
de
sentiment,
quoi.
Déjà. Bref, alors pourquoi on parle de Rogue Squadron? Eh bien, c'est simple, on a appris récemment, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on savait déjà que Factor 5 avait préparé un Rogue Squadron trilogie qui regrouperait les 3 jeux qui étaient sortis, celui sur N64, qui aurait évidemment profité d'un lifting complet, et celui sur GameCube, le premier Rogue Leader, et le second Rebel Strike. Donc on savait que ces trois jeux-là étaient prêts pour une compilation aux alentours de 2009, je crois qu'on l'a appris, qui avait été annulée. Mais cette semaine, on a en fait vu les quelques images du jeu en développement qui était fini a priori à 50-60%. L'histoire derrière le truc étant simple, hein, c'est que durant les années 2000, Factor 5 commence à préparer un remake pour Xbox du Rogue Squadron Trilogy, simplement parce qu'ils ne sont plus liés par contrat à Nintendo pour leur fournir des jeux Star Wars. Ils proposent l'idée à LucasArts, qui dit, écoutez, non les gars, il y a la Xbox 360 qui sort, faudrait que vous fassiez un jeu pour Xbox 360. Donc les mecs commencent à bosser sur Rogue Squadron X-Wing versus TIE Fighter, qui est annulé aussi, dont on a pu voir quelques images. Je dois vous avouer que ça fait baver, mais vraiment baver. Enfin, moi j'étais en transe devant le truc, c'est-à-dire que c'est un Rogue Squadron en multijoueur, avec du online multijoueur, avec plusieurs escadrons qui s'affrontent. Enfin, ça avait l'air vraiment énorme. C'est annulé. Du coup, bah, Factor 5 se retrouve sans rien. Sony les approche en disant bon, on aimerait bien que vous fassiez un jeu pour notre nouvelle console, la PlayStation 3. Ils font l'air.
Qui voilà. Était une merde.
Qui était une grosse merde.
Grosse boule de dragon.
Ouais, c'était horriblement.
Voilà.
C'était pas jouable. Hein.
Ce fut l'échec. Mm. Bah parce qu'ils ont essayé de tout faire aussi sexy, c'est que ça marchait pas. Ils se sont quand même pas déballonnés, les mecs. C'est-à-dire quand ils ont vu le Wii Motion Plus, ils se sont dit ah putain, il y a moyen de faire un truc. Alors je sais pas si c'est quand ça a été présenté aux développeurs ou quand ça a été présenté au grand public, mais la période où le Wii Motion Plus a commencé à se faire connaître, ils se sont dit bah tiens, si on ressortait notre Rogue Squadron trilogie des cartons. Sachant que comme la Wii a une architecture très proche de la GameCube, bah ça va pas être grand chose à porter, il va falloir lisser un peu les textures, rebosser un peu quelques trucs, et puis c'est parti. L'idée étant, voilà, on pouvait jouer avec le Wii Wheel si on pilotait un véhicule terrestre, on pouvait jouer avec Wiimote Nunchuk, on pouvait jouer avec la Wiimote tout court, on pouvait jouer avec une manette normale, on pouvait jouer avec une manette GameCube, enfin voilà, c'était vraiment de proposer une expérience assez unique. Et dans Rebel Strike, ils avaient essayé, puisque Rebel Strike, c'est celui où il y a les phases à pied, qui n'était pas top.
Qui était acheté, tu peux le dire.
C'était le 3. Non, il était pas mal.
Les phases à pied étaient à chier.
C'était naze, mais après, le reste, il était bien comme jeu.
Voilà, mais le reste, était très bien. Et l'idée, ouais, c'était de dire, bah, pour Rebel Strike, on va se démerder pour aller refaire les phases à pied, pour inclure des combats de sabre qui ressemblent à quelque chose, éventuellement pouvoir viser avec la Wiimote, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de Rogue Squadron. Et donc, on va revenir sur l'original auquel Antix n'a pas joué, honte à lui.
L'original.
Donc je vous rappelle que LucasArts, Factor 5 et Nintendo passent un contrat au début de la vie de la N64 pour sortir trois jeux sur N64. Le premier étant Rogue Squadron, le second Battle for Naboo, et le troisième qui ne sortira qu'aux États-Unis, qui est Indiana Jones et la Machine Infernale, qui est sorti sur PC en Europe, mais qui n'est jamais sorti sur N64 en Europe. Voilà. Donc, Rogue Squadron. Je sais pas comment on démarre. Frosty, tes souvenirs de Rogue Squadron, enfin,
dans une galaxie lointaine. Très lointaine.
Voilà, on peut démarrer comme
ça. Des phases nostalgiques d'un jeu avec des vaisseaux décident d'en parler autour d'une bière.
Non, mais c'était très lointain quand même. Hein. Non, mais en plus, je me souviens pas de comment je l'ai eu. Je crois que je l'avais eu d'occasion, je crois, pour être franc. Je l'avais pas acheté neuf, mais parce que je devais avoir d'autres jeux et que j'avais pas de thunes et que du coup j'avais pas tout acheté.
Parce que t'étais jeune et innocent et sans thunes.
Ouais, voilà, c'était un peu ça. Et non, moi ce qui m'avait frappé, c'était juste la maniabilité en fait. C'était enfin avec un petit joystick et tout, pour l'habitude. À part avec quand j'avais la Saturn avec le truc pourri, la Knight. J'avais juste
putain,
la petite manette.
Le mec qui avait la Saturn, quoi.
Ouais, j'avais la Saturn.
T'as honte ou pas?
Non, même
trois,
pas.
Un des trois mecs en France avec la Saturne.
Voilà. Et j'avais la manette classe là qui était vendue avec Knight. Et du coup, ouais, c'était la. Enfin, pour moi, c'était mon premier vrai Star Wars. Le comment dire, le Rogue Squadron. Enfin, je dis Rogue Squadron, moi je dis pas Rogue Squadron.
Ah oui, mais moi je prononce ça à la française, moi je dis Rogue Squadron.
Et c'était vraiment, ouais, donc mon premier Star Wars avec des vraies musiques. Enfin, c'était top quoi. Les musiques étaient vraiment, vraiment ultra bien foutu, toutes les missions étaient top, ça reprenait bien les films et tout, enfin c'était vraiment nickel quoi.
Bah, en fait, le premier Rogue Squadron reprend l'univers des films, mais pas tellement les films, puisque ça se déroule entre, si je dis pas de bêtises, l'épisode 4
ouais.
et 5, c'est ça.
Ouais, mais du coup,
t'as des références aux films,
t'étais
mais
pas perdu, quoi.
T'as une vraie histoire qui se suit, ouais, tout le long des missions, t'as vraiment
top, hein.
Un progressif. Et tu retrouves pas mal de planètes de l'univers de Star Wars et quelques inédites.
Et t'incarnes beaucoup le personnage de Wedge Antilles et beaucoup de fans de Star Wars le kiffent d'ailleurs.
Bah oui.
Donc ça c'est, ouais,
c'est le gars qui a à peu près 5 minutes de film au total, mais tout le monde le kiffe.
Mais parce que c'est plus dans les romans. Dans les romans, il est vachement plus détaillé en fait.
Ouais, et puis c'était. Tu pouvais, je me souviens d'une première mission, ça date sur Tatooine, et c'était immense. En même temps, il y a beaucoup de brouillard, je crois.
C'est la 64.
T'avais des vallées, t'avais plein de trucs, enfin, c'était vraiment top, quoi. En tout cas, dans mes souvenirs, après.
C'est un jeu qui m'a toujours impressionné. Non, mais les cartes sont pas si grandes que ça, en fait. Tu te rends compte que t'as l'impression que c'est grand, mais en termes de level design, ça serpente beaucoup. Donc tu peux revenir en fait énormément au point de départ. Ce que je trouvais très impressionnant, c'est que c'est un des premiers jeux qui exploitait vraiment l'expansion pack de la N64. Oui. C'est-à-dire que quand tu joues sans expansion pack, le jeu il est horrible, mais vraiment horrible, il est pixelisé à mort, enfin c'est une atrocité. Et quand tu joues avec expansion pack, tout d'un coup, enfin voilà, tu sens que Factor 5, les mecs ils ont vraiment mis le paquet. À la base, c'est des demo makers, les mecs de Factor 5, donc c'est des gars qui techniquement sont des grosses têtes. Et tu sens que Rogue Squadron, ils ont vraiment poussé les limites de la console partout où ils pouvaient, quoi.
Ouais, t'avais plein de vaisseaux partout, c'était fou, totalement fou.
C'était vraiment complètement dément. Ouais,
à l'époque, quoi. Bah, quand tu passes de Starwing
sur Super NES
à ça, tu te dis, bon, bah en fait, il me faut un Star Fox, quoi. Enfin...
Et toi, tu l'as acheté d'occasion, alors, t'as pas honte?
Non, ben non, j'ai pas honte.
Alors, je vais raconter une histoire. J'ai eu la VHS du catalogue Nintendo 1995 dans un Nintendo Magazine, attention, hein, VHS, le truc que les jeunes ne connaissent pas. Et sur cette VHS, il y avait la présentation notamment de Ocarina of Time, donc voilà. Et il y avait la présentation de Rogue Squadron. Et j'ai tellement regardé la cassette qu'elle est devenue illisible, c'est-à-dire que j'ai cassé la bande ou je sais pas quoi. Force de regarder le truc de Rogue Squadron en attendant que ça sorte. Et moi, le jour de la sortie, j'ai fait le pied de grue devant le magasin pour avoir mon exemplaire de Rogue Squadron.
Ah, mais. Pff. Ouais, c'était voilà, vraiment.
Voilà, du vrai fan. Voilà.
Du vrai fan, quoi. Non, mais j'avais les cassettes, hein, les cassettes vidéo. Je les ai encore, d'ailleurs.
Oh.
T'avais les top 20 des meilleurs jeux de l'année, un truc comme ça, avec les sorties. Je me souviens. Je te prendrai une photo.
Je veux bien. Si tu peux capturer toute la vidéo, on la mettra sur YouTube.
Ouais, ça va être compliqué, là, quand même.
Ça va être moche aussi. Hein.
Ça va être moche, mais ça va être très très moche. Le VHS
et
rit.
Et ça, mes enfants, c'est du 120p.
120p, ah ouais, d'accord. Écoute,
okay. À l'époque, on jouait avec 60 pixels et ça nous suffisait largement.
Voilà.
Il y avait des émotions dans nos jeux.
Voilà, 80 colonnes, 24 lignes, merci. Hein.
Avec les montagnes, c'est qui apparaissait.
Ouais, non, mais il y a une mission qui était particulièrement atroce dans Rogue Squadron. Alors, T'as de très bons souvenirs, c'est bien, moi j'y ai rejoué il y a pas longtemps, et c'est vrai que du coup il y a des trucs, ça te casse un peu le mythe. Il y a de très très bonnes missions qui sont vraiment très dynamiques, avec des objectifs qui changent tout le temps, avec voilà, des trucs vraiment très bien. Et il y a énormément de missions d'escorte, de...
Ah ouais, putain, je...
qui sont chiantes, et il y a une mission horrible, ce qui est une mission d'infiltration, où tu dois commencer par détruire des espèces d'antennes radar, puis t'approcher d'une base pour aller casser des trucs... Et en fait, cette mission est horrible parce que tu ne vois rien. Mais rien, 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 rien. C'est-à-dire que t'as une espèce de brouillard blanc, et les montagnes sont noires, le décor est noir et tout ça. Et en fait, quand tu approches, tout d'un coup, t'as les montagnes qui pop, et donc t'es obligé de faire des demi-tours. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je sais pas comment on faisait quand on était petit pour arriver à voir quelque chose. C'est peut-être l'âge, hein. À la force, je vois plus très clair.
Et attends, et encore, les écrans étaient plus petits aussi.
Et sur un 36 cm, j'imagine même pas, quoi.
C'était un peu, ouais, c'était une autre époque, quoi.
C'était un peu roots, ouais, c'est un peu roots comme jeu. Est-ce que, parmi vous, quelques-uns ont joué à Battle for Naboo, qui est la suite directe de Rogue Squadron?
Ouais. On me l'avait prêté, parce que j'arrivais pas à le trouver, moi, par contre, c'était un de mes potes qui me l'avait prêté. Je me souviens même de la boîte avec le petit truc Naboo et tout, qui est super vide, d'ailleurs, le vaisseau.
Oui, c'est le fameux le Naboo Starfighter.
Voilà,
il allait très vite.
Il allait hyper vite. Par contre, j'ai moins de souvenirs. Beaucoup moins de souvenirs, donc je me souviens juste de la boîte et de quelques missions vite fait. Mais ouais, j'ai pas, il m'a pas marqué autant.
Pas autant que le premier. Alors il faut savoir que c'est un des jeux qui est techniquement les plus aboutis sur N64. parce que les mecs de Factor 5 avaient recodé le firmware de, une partie du firmware de la console pour pouvoir afficher des particules. Ça a l'air de rien comme ça, mais les particules sur N64 en temps réel, bon bah voilà, fallait être bien chargé quoi.
C'était quoi ? C'était quand tu butais les ennemis, non ?
Non, c'est dans une mission où il y a de la pluie, et la pluie c'est des particules.
Mais qu'ils ont recodé le truc juste pour une mission.
Juste pour une mission, en gros. Enfin, il y en a d'autres où c'est utilisé, mais t'as des particules, des vraies particules qui sont faites sur N64. Et voilà, c'est va recoder le firmware pour faire des particules. Bon, comme je sens, Croc Squadron n'a pas l'air de vous passionner. Antix et Calican, je n'ai peut-être pas, peut-être pas de souvenirs très marquants.
Si, si, mais ça remonte.
Moi, j'y ai pas joué, moi. Ça va plus vite.
Moi, je me souviens de Chris Donner sur le jeu, mais voilà, je me souviens des deux passages où il y avait des. Alors, peut-être que mes souvenirs sont flous. Il y avait des problèmes de bugs de collision. Mais peut-être que
ah. Il y en avait un peu.
Ouais. Il y en avait un petit peu, ouais, mais c'était pas le pire sur N64. Moi, je me souviens vraiment, c'est le brouillard en fait.
Ouais, c'est vrai que
si tu connaissais, c'était pas énorme quoi.
Si tu connaissais pas les missions par cœur, enfin pour avoir les médailles en or, fallait vraiment les connaître par cœur parce qu'avec le brouillard, tu pouvais pas te diriger. Tu te dirigeais quasiment au radar ou en prenant des points de repère dans le décor.
Ouais.
Ça, c'est, voilà, ouais, le challenge des médailles d'or était vraiment pas évident sur ce
Il était moins accessible aller, hein. que la version GameCube.
Ah,
je te fais une transition de.
Elle est transition bien balèze, la version GameCube quand même.
Ouais. Elle est
dure, mais je sais pas.
En tout cas, du haut de mes 12 ans, je me souviens en avoir bien chié.
Je sais pas que. Il est sorti quand celui-là
Avec la GameCube.
Donc c'est Rogue Squadron 2.
C'est Rogue Leader.
Rogue Leader,
Rogue Squadron 2, c'est un jeu qui... Alors je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je le mets dans ma console, ça arrive encore une fois de temps en temps, je le trouve toujours aussi impressionnant. Il est absolument magnifique ce jeu.
Oui, il est magnifique, quoi. Ouais. Bah, c'est comme le film, quoi. C'est la même chose. Enfin, pas la même chose, mais...
Non, mais
à l'époque, c'était dingue.
Les petits effets sur les vaisseaux ressemblent beaucoup à ce qu'ils ont fait dans les versions remaster des films.
Et ça, t'avais la tout mise en scène.
La mise en scène de l'étoile noire au tout début, ressemble beaucoup au film.
Ce qui était très cool d'ailleurs dans Star Wars, une des raisons pour lesquelles je le voulais absolument, c'était il y avait la bataille de l'étoile noire, la première, et puis il y avait la deuxième.
Il y a bataille de Hoth.
Ouais, si, mais c'est pas cool, il n'y a pas de X-Wing. Enfin,
pas de X-Wing, mais tu pilotes quand même des Snowspeeders. Ouais. Hein.
Bah, voilà, moi, c'est ce que je trouvais cool avec le jeu, enfin la série en général. C'est... Dans Star Wars, moi, le truc cool, c'est les vaisseaux. Et dans ce jeu, on pilote les vaisseaux. Et on refait les scènes du film. Ça, c'est cool.
Et de mémoire, c'était un jeu du line-up GameCube.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire.
C'est
un
jeu du lancement.
C'est un des plus beaux jeux de la console.
Il défonçait la gueule, hein, parce que c'était mon premier jeu. Et qu'est-ce que j'ai pu le trouver beau à l'époque. Mmh. C'est vraiment.
Et quand t'étais sur l'étoile nord avec tous les petits lasers verts, là, ça partait partout.
Non,
ça te touchait pas, mais c'était pas grave.
Non, mais attends, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une des missions où tu vas affronter un super croiseur interstellaire. Tu démarres, et je crois que c'est la mission qui m'a le plus scotché. Je sais plus quelle mission exactement c'était, mais je crois que c'est celle qui m'a le.
C'est l'avant-dernière de l'étoile noire, non ? Enfin, c'est une des avant-dernières, je crois que c'est. Il y en a une où t'affronches le super destroyer devant l'étoile noire à la seconde.
Alors, non, alors il y a cette mission-là, il y a la mission du retour du Jedi où tu te fais attaquer, tu sais, genre.
It's a trap !
Mais il y en a une avant où tu dois aller buter un truc, et. Et ce que je me rappelle clairement, c'est tu t'approches du vaisseau. Et monte, tu t'approches du vaisseau, puis à un moment le vaisseau, tu vois plein de petits trucs verts scintiller dessus, et là t'as tous les lasers qui t'arrivent dans la gueule. Voilà, moi c'est ça, le souvenir que j'ai de Rogue Squadron, c'est ça.
Il y a une mission où il faut que tu détruises un destroyer, c'est l'intégralité de la mission, et je crois que c'est ça que tu pouvais finir le plus rapidement pour avoir la médaille
en moins d'une minute, je crois, en 50 secondes ou 40 secondes, une connerie comme ça, c'était vraiment très très court.
Et ouais, c'était fallait que tu détruises les 3 points avant d'aller buter les 3 pixels qui servaient de passerelle à coup de missile.
Voilà, c'est un peu ça.
Et puis t'avais l'espèce de vision nocturne là où je. Enfin, de mémoire,
L'ordinateur de visée.
Ouais, voilà.
C'est le truc qui sert à rien dans le film.
Non, mais c'est pas ça, c'est le truc dont tu te sers pas dans le jeu non plus parce que tu peux pas avoir les médailles d'or si tu le fais.
Ouais,
de toute façon, t'apprends à ne pas t'en servir.
T'apprends à utiliser la force.
Il y avait des missions où t'avais. Enfin, c'était pas du brouillard, mais c'était comme des galaxies. Enfin, c'était vraiment trop beau.
Il y avait une mission sur.
T'es un peu obligé de l'utiliser.
Ouais, il y a une mission sur la cité dans les nuages qui est absolument magnifique. Alors la version 64 était superbe et la version GameCube c'est tellement scotchant. Enfin, moi je me rappelle avoir vraiment scotché, mais c'est ce jeu techniquement est toujours au top quoi. Enfin,
et même au niveau du son c'était THX machin, t'en avais très 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 peu. Hein. et surtout au line-up de la console.
C'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte que c'est un des jeux qui est, c'est un des premiers jeux qui est sorti, parce que c'était au line-up de lancement, et ça reste un des plus beaux jeux de la machine.
Oui, contrairement à maintenant où en fait les premiers jeux, quand tu les remets après, tu fais oula.
Oui, c'est chaud.
Genre les premiers jeux de la 360, tu les remets, tu fais ah ouf, d'accord, ok, bon, c'était pas top en fait. Alors que sur GameCube, ouais. Elle avait quand même cette force-là en fait, c'est d'avoir des jeux au line-up qui étaient fabuleux quoi.
Effectivement, ça avec le recul. Et donc du coup, Piscantix, du haut de tes 12 ans, est-ce que tu avais réussi à finir toutes les missions en or, y compris la mission d'endurance de la fin?
Alors j'ai fait ma tapette à l'époque et j'ai fait le cheat code pour avoir la décapotable. Mais qui était le meilleur vaisseau du jeu? Non, j'étais très très mauvais au jeu. Moi je trouvais juste ça cool de faire refaire les scènes du film et les autres missions en vaisseau. Hein.
T'as pas tenté le challenge shoot les médailles d'or?
Il me semble pas que j'ai essayé. Comme j'ai pu mon jeu sous la main.
Je saurais pas te dire non plus, moi, si j'ai... Je pense pas que je les ai eu aussi, hein. M'étonnerait.
Alors moi, j'ai eu toutes les médailles d'or, les petits gars, et mon frangin a effacé ma sauvegarde, et donc j'ai recommencé.
Et tu les as tous tués à nouveau?
Et je les ai tous tués à nouveau.
Oh, le bourrin.
La brute.
Mais j'adore Rogue Squadron et Rogue Leader, c'est vraiment mes jeux préférés, et c'est vrai que même sur Rogue Squadron, j'ai terminé le jeu avec toutes les médailles en or, et là, franchement, sur la version N64, c'est ultra costaud.
Ouais.
La dernière mission qui consiste à. Il faut qu'il y ait zéro allié tué. Et il y en a, 50 sur la, il y en a 50 sur la carte des alliés. Enfin, c'est du délire parce que il faut zéro allié tué. J'ai passé un nombre d'heures ahurissant à avoir cette mission-là en or. Elle est vraiment ultra difficile.
Sur N64, ouais, c'était
hardcore.
Il était beaucoup plus dur que les épisodes GameCube. Enfin, les deux N64 étaient plus durs que les deux épisodes GameCube.
Je trouve aussi que sur GameCube, c'est-à-dire que c'est plus lisible déjà sur GameCube, c'était un peu moins.
Bah ouais, plus rapide aussi, du coup, c'était mieux foutu, je trouve.
J'ai l'impression que les jeux étaient un peu moins exigeants, c'est-à-dire que les objectifs de médaille d'or, à part quelques trucs, ils étaient quand même faisables. Il y avait pas de. Sur N64, il y a des médailles d'or, c'était vraiment.
C'était la console de brut, l'N64.
C'était la console des hommes, des vrais.
Les vrais, quoi.
Ceux avec du poil aux pattes, et puis voilà.
Voilà. Par contre, je me souviens d'une mission, je crois que c'est dans le 3, avec une ceinture d'astéroïdes ou un truc comme ça.
Ah oui, mission sur Géonosis.
Ouais, elle était top, celle-là.
C'est une des premières missions du jeu, je crois que c'est une des meilleures missions du jeu. Et alors voilà, tant qu'on y est, on embraye du coup. Rebel Strike, alors je sais pas si vous y avez joué, il y a beaucoup moins de gens qui ont joué à Rebel Strike qu'à Rogue Leader.
Et j'ai pas autant aimé, hein, je le dis.
Les phases à pied étaient à chier.
Il y avait aussi une phase avec les bipèdes et je pense que c'était le dernier niveau du jeu et j'y arrivais jamais.
Il est vraiment à faire quand même. Si t'aimes bien le 2, faut vraiment faire le 3 en même temps. C'est juste que les phases à pied c'était vraiment nul déjà à l'époque et ça a super mal vieilli quoi. Il marchait comme une merde le truc, on aurait dit un pantin. C'était pas hyper jouable.
Ouais, les caméras étaient merdiques. Ouais. T'as une espèce de visée semi-auto qui fait qu'en fait au bout d'un moment tu finis par avancer en bourrinant du laser sans réfléchir.
Oui, c'était quasiment ça. Moi. Enfin, moi,
et il y en a beaucoup des phases à pied.
En fait,
c'était la moitié du jeu, je pense.
Un
bon tiers du jeu facile.
Ouais, t'as un bon tiers.
L'idée étant, t'as une phase en vaisseau, t'atterris sur la planète, t'as une phase à pied, puis tu reprends un autre vaisseau pour te barrer, quoi. C'est ce genre de truc-là. Donc ça apporte un peu de variété par rapport à un Rogue Leader dans lequel, quand tu changeais de vaisseau, c'était vraiment juste aller sur le symbole Escadron Rogue, tu changeais de vaisseau, puis c'est tout.
Avec le truc dans la neige, là aussi, où tu devais foutre le grappin sur les.
Ouais.
Je suis très nul en robot Star Wars, par contre, j'ai jamais le.
Les AT-AT.
Voilà, je m'en souviens jamais des noms. Quand t'es sur HOT.
Voilà, les AT-AT.
Il n'y avait pas d'ailleurs des phases du film en vidéo, je sais plus.
Dans les menus, t'avais les vidéos et dans Rebel Strike t'avais carrément des cutscenes qui étaient des scènes du film.
Donc c'est moi ce qui me semble.
Dans Rogue Leader aussi je crois j'ai souvenir que quand tu pètes l'étoile de la mort.
T'as cette séquence là seulement.
Ah d'accord, ok, bon j'ai juste ce souvenir.
Voilà. Et je crois que c'est le générique de fin. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans Rogue Leader, quand tu finis la mission, la dernière mission du Retour du Jedi, tu as le générique de fin de la version édition spéciale. Et si je dis pas de conneries, sur Rebel Strike, c'est le générique de fin de la version normale.
Ah ouais ?
Ouais, il y a une connerie comme ça, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'il y a un micmac comme ça, alors c'est soit l'un soit l'autre.
Dans l'autre sens.
Ouais, voilà. Et je sais pas si Fro, toi, tu... Parce que Rebel Strike, donc, disco. Vous avez moins bien aimé. Donc il y a l'intro disco, qui est quand même...
Ouais, elle est trop classe. Top. Super génial, ça.
La grande classe.
Le jeu, il vaut l'achat juste pour ça.
Ouais, je pense que c'est sérieusement juste pour l'animé, juste pour avoir l'intro disco. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a aussi dans Rebel Strike, il y a un mode Rogue Leader à deux.
Oui, effectivement. Ouais. Mais par contre, ça, moi, j'ai pas trop joué. J'étais plus jeu solo. Pour ce genre de trucs, les shoot'em up et autres, j'aime bien jouer tout seul. J'aime pas trop en écran splitté, même Star Fox, ça me saoule en divisé par 4 ou par 2, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai pas trop joué là-dessus, je sais qu'il y en a... J'avais dû le tester avec des potes, mais j'ai pas trop de souvenirs.
Antix, t'as jamais l'occasion d'essayer
Je crois que je l'avais testé, mais je n'ai pas un souvenir de fou, quoi.
D'accord. Parce que moi j'ai pas mal joué en fait au mode multi avec quelqu'un qui était aussi un grand fan de Rogue Squadron. Et on s'est quand même bien marré à finir le jeu à deux.
J'imagine que quand tu sais les deux savent jouer au jeu, ça doit être très très drôle. Hein.
C'est assez jouissif en fait, parce que tu peux vraiment coordonner, prendre en feu croisé des ennemis, coordonner des attaques, coordonner des raids, c'est-à-dire quand t'as des Y-Wing, tu peux aller passer en raid exactement au même moment pour aller bombarder certains objectifs, donc c'est vraiment intéressant. Après, le challenge n'est pas adapté à deux joueurs, je veux dire, les missions elles ont été pensées pour un seul joueur. Elles ont pas été refaites particulièrement, il n'y a pas plus d'ennemis, il n'y a pas plus d'obstacles, donc je dis pas que tu te fais chier, hein, mais voilà, quand tu connais déjà par cœur Rogue Leader, voilà, tu fais Rogue Leader avec un pote et tu peux te coordonner un petit peu, ce qui fait que voilà, avoir les médailles d'or, je sais pas si ça y était d'ailleurs, j'ai plus souvenir, mais enfin voilà, il y a certaines missions que tu torches, mais vraiment que tu torches, sans aucun problème. Bon bah voilà, je pense que... Alors est-ce que vous l'auriez acheté, vous, le remake Rogue Squadron Trilogy
Très probablement. Hein.
Carrément, ouais. Je viens de tweeter le truc, d'ailleurs.
Juste pour Rogue Leader. Hein.
Je viens de tweeter la vidéo, d'ailleurs, de Star Wars Rogue Leader, oui. Et à revoir, là, c'est fou, quoi. Enfin, moi, ça me donne carrément envie. Hein.
Moi aussi, ça me donne carrément envie. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y a un mec qui arrivera à trouver une ROM chez Factor 5, à la voler, voilà, à la faire fuiter, et qu'on pourra peut-être essayer, ouais.
Je pense que ça va se retrouver sur le net, c'est une évidence. Trouver en torrent ou un truc comme ça. Déjà que ça se retrouve en vidéo, il avait l'air d'être bien fini quand même le jeu. Même s'il y a 2-3 bugs à la limite, c'est pas trop grave. Mais à mon avis, ça va se retrouver sur le net assez rapidement, quoi. Vraiment que Nintendo revienne et puis dise bon bah voilà, sortez-le sur Wii U, quoi.
Je regarde la vidéo là, j'ai une profonde érection là.
Bave. Tu fais un remake de Rogue Squadron sur Wii U.
Ouais, mais c'est... Je pense pas, parce que ça leur friterait le... Enfin, ils se couperaient l'herbe sous le pied pour Star Fox.
Bah, je sais.
Pas forcément, parce que c'est pas le même genre de jeu.
C'est pas le même univers, mais au niveau du gameplay, à mon avis, ça va être à peu près... Ils vont faire des trucs phase à pied, phase...
De toute façon, maintenant que LucasArts n'existe plus, je sais même pas qui a les droits de Rogue Squadron.
C'est Disney.
Oui, non, mais d'accord, mais est-ce qu'ils ont récupéré les droits du jeu?
Oui, ils ont tout.
Alors, ouais,
tous les droits Star Wars.
Alors, ils ont tout racheté.
Ça sortira pas en exclusivité sur Wii U, quoi.
Bah,
ça peut pas certain.
Ça
ne sortirait pas en exclusivité sur Wii U.
Ouais, je pense pas.
C'est le conditionnel, l'impératif passé.
Et puis, vu que Disney a filé les droits de développement à Electronic Arts. Pour les jeux, enfin les prochains jeux Star Wars.
Ça va puer du cul, ça.
Je pense pas que Rogue Squadron, on va le voir. En tout cas, cette version-là, je pense pas qu'on la verra même sur PS4 ou Xbox One, ou PC ou Wii U, quoi. M'attendrai beaucoup. Après, avec du bol, hein, ce sera toujours bien, de toute façon, on s'en fout. Enfin, même si c'est pas sur Wii U, bah tant pis, mais au moins ça sortirait quand même, quoi. Donc ce serait pas mal. Un Rogue Squadron 4, quoi.
Un Rogue Squadron, alors c'est vrai qu'un Rogue Squadron 4, mais s'il pouvait ressortir des cartons le projet.
De toute façon, on va forcément avoir ça, enfin, avec Star Wars 7 qui va sortir en film.
Oui, c'est pas mal. Mais c'est, jusqu'à présent, enfin, les jeux qui sont basés sur Star Wars, pour avoir fait une petite rétrospective sur le dojo il y a peu de temps,
ils sont pas top.
Alors, ça dépend des jeux. Mais au final, il y a eu énormément de jeux sur les épisodes 4, 5 et 6, et sur les épisodes 1, 2 et 3, en fait, l'épisode 1, t'as eu une quantité de jeux absolument ahurissante. Que ce soit Battle for Naboo, épisode 1 Racer,
Star Wars Racer, il était trop bien.
Voilà, et t'en as eu une quantité énorme. T'as eu Jedi Academy, épisode 1 Jedi Academy, enfin t'en as eu une quantité énorme. Sur le 2, il y en a déjà quasiment plus. Et sur le 3, t'en as un, je crois, officiellement.
Ouais, pourtant il y en a un bon paquet, hein, de Star Wars. Hein, c'est...
Après, t'as beaucoup de spin-off.
T'as les Lego
mais
Star Wars,
les jeux qui
limite,
sont vraiment inspirés directement des films, il y en a de moins en moins. Mm. Alors, je sais pas si pour l'épisode... Après, il y a les Lego.
Les Lego Star Wars qui reprennent tous les films, mais bon, ça reste Lego, c'est un peu différent, quoi. C'est pas même,
Ah, c'est pas tout à fait le même délire, quoi.
Ouais, c'est marrant, mais c'est pas tout à
moi,
fait
ils font,
pareil.
Ils font sur le moteur de Rogue Squadron avec des Lego, j'achète.
Ah oui, bah oui. Bah, les jeux Lego sont pas mal, hein. C'est juste que
ouais,
c'est
les jeux
peu...
Lego sont pas mal, mais...
C'est pas foufou, quoi, mais c'est pas mal. Ouais.
Donc si... Factor 5, si tu nous écoutes...
Ils font quoi
ils nous écoutent.
D'ailleurs,
je suis sûr qu'ils nous écoutent.
Ils font
vous
quoi,
êtes encore
Factor
en vie
5,
ils sont pas fait faillite.
Je crois que c'est ça, ouais.
Voilà, donc en fait, c'est fini.
Ils ont pas fait grand-chose depuis l'heure. Hein.
Bah, en fait, ils ont fait que des débuts de jeu. Donc,
Non, mais ils commencent des trucs, ils les finissent à 50%, ils les présentent, et les mecs leur disent non, mais vous allez faire autre chose.
Ah, vous allez faire Kinect Star Wars. Hein.
Ah, ils ont fait Turrican. Ah. Ils ont fait Turrican.
Oui, voilà, mais non, ils ont fait les portages de Turrican pour... C'est un peu compliqué.
Donc, oui, oh, c'est un peu... Ouais.
Donc je sais pas ce que mais, ça va donner, mais c'est vrai que... Alors, est-ce qu'on a l'espoir un jour d'avoir un Rogue Squadron 4? Peut-être. Enfin, moi, j'espère. J'espère qu'un jour, ils ressortiront l'idée du Rogue Squadron X-Wing versus TIE Fighter, c'est-à-dire des escadrons qui combattent en ligne. Moi, franchement, à 12 contre 12, moi, je suis super client. Mais je sais pas si un jour, ça sortira.
Il y a un jeu, Namco. Alors, c'est Namco qui s'en occupe, par contre, je sais plus qui développe. Justement sur l'idée X-Wing versus TIE Fighter de mémoire.
Ah,
c'est un jeu
arcade.
C'est en arcade, ouais. Avec le pod et le cockpit de... enfin une espèce de reconstitution de cockpit de X-Wing qui a l'air vraiment bien et j'espère qu'il sortira sur console.
Ouais, mais si t'as pas le vrai truc comme en arcade avec avec le cockpit, ça sert à rien.
Le pod qui me l'a envoyé m'a dit que ce serait très cool à l'Oculus Rift.
Ouh.
Oui, ça pourrait être pas mal, mais après...
Ça va, je l'ai vendu Mortal.
Ouais, non, c'est... Non, là, je... Alors, moi, j'ai jamais essayé l'Oculus Rift, mais de ce que j'en ai entendu, franchement, ça donne envie.
C'est Star Wars Battle Pod,
ouais,
si
c'est
vous
ça.
Cherchez le nom.
Voilà.
C'est la nouvelle borne. Écran, ouais, c'est un écran de foufou, quoi. C'est un écran incurvé.
Ah, t'es dans ton petit pod, il y a déjà des bornes, enfin des... Des jeux comme ça qui utilisent ça au Japon, je crois que c'est des trucs Gundam. Même chose avec le cockpit du Gundam.
Le truc, voilà, tu transposes le truc qui n'a aucun intérêt en dehors du Japon, un truc qui a un intérêt partout dans le monde. Donc tu transposes du Gundam en Star Wars.
Ouais, ça peut être. Oui, remarque.
Ça peut être une idée, hein, mais. Bref. Eh bien, sur ce, on va marquer une deuxième pause musicale. Je suis très content d'avoir parlé de Rogue Squadron. C'est un jeu qui me tient vraiment beaucoup à cœur, donc d'avoir parlé de toute la série avec vous. Je vois qu'il y a des grands enthousiastes. Pas la version N64, étonnamment. Enfin, Frosties un peu, mais...
Pourtant, c'est quand même des références, quoi. C'est,
ça fait partie des tout meilleurs jeux de la console, sans aucun problème.
Et on en parle très rarement, d'ailleurs.
Si t'as une 64, t'es obligé d'avoir...
Tu peux pas faire
autrement.
En plus,
il
est pas cher du tout. Il est jamais ressorti en console virtuelle, mais alors choper une cartouche, ça coûte rien du tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous voulez jouer à Rogue Squadron ou à... à Battle for Naboo, ils sont sortis sur PC aussi, puisque l'exclusivité de Nintendo, c'était une exclusivité console, donc tous ces jeux-là sont aussi sortis sur PC. Les versions PC sont en général plus lissées que la version N64, ont tendance à moins ramer et il y a un peu moins de brouillard. Donc ça peut être bon plan. Alors, par contre, c'est assez difficile à faire tourner sur les OS modernes, donc il faut partir sur des modes de compatibilité un peu chelous pour arriver à les faire tourner.
Il y a moyen.
Voilà, mais il y a carrément moyen. Les ISO sont pas difficiles à trouver, suffit de chercher un petit peu. Et ça permet de découvrir le jeu ou de le redécouvrir dans des conditions qui sont quand même sympathiques. Okay. Je n'ai pas vu de grosses communautés autour pour faire des packs de textures ou des choses comme ça. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à nous tweeter ou nous le faire savoir, parce que moi ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui ont fait des petites choses sur le sujet. Bref. Donc, on va marquer une deuxième pause musicale. On va écouter de nouveau du Star Wars, puisque voilà, c'est un peu la fête à Rogue Squadron. On va écouter donc un morceau qui s'appelle Dark Planet et qui est issu de Rogue Leader. C'est la musique quand on explore les recoins de la planète et qu'on sait pas trop ce qu'on cherche. Voilà. Ça dure 30-10 et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Et nous voilà de retour. Et pour parler de complètement autre chose.
De Star Wars ?
Non, parce que ça, on a déjà fait. Donc ça, c'est bon. On a même élargi un petit peu, c'est vrai que je connaissais pas le Star Wars Battle Pod, donc du coup c'est intéressant. Je suis pas sûr que ça va arriver jusqu'en France, ça, tu vois, étonnamment.
Non, à mon avis, non.
J'ai l'impression que ça va être un peu compliqué.
Bah, la borne d'arcade, peut-être pas, mais un portage possible. Hein.
Ouais, un portage sur console, mais ça va être un peu moins. Sauf si t'as un écran 4K incurvé. Bref. Donc j'avais envie de poser une question. Voilà, comme on est sur la dernière partie de l'émission, on commence tous à avoir un petit coup dans le nez, en fait. Hein, ça, c'est un peu gentil.
Ouais, c'est qu'on a bien bu.
Est-ce que vous êtes un compléteur ou un finisseur ? C'est-à-dire, est-ce que les jeux, vous les prenez, et puis dès que vous arrivez au générique de fin, bah, finalement, vous le reposez sur l'étagère, et puis vous faites éventuellement un deuxième run une fois de temps en temps, mais vous cherchez pas à aller faire toutes les missions annexes, à aller collecter tous les quarts de cœur, à aller faire tous les masques, à aller faire la quête du truc chelou qui sert à rien ? Ou est-ce que, au contraire, vous essayez systématiquement de finir vos jeux à 100 %? Antix, tu vas commencer, parce que Fro, il a beaucoup parlé, donc maintenant c'est à ton tour.
Oh, c'est moi qui vais parler. Ça dépend des jeux, tout simplement. Genre, par exemple, les Mario 3D, mais tous, j'ai toutes les étoiles. Même les deux versions. Même la version DS de Mario 64.
Ouh.
J'ai même fait.
Pas mal.
Enfin, moi, Mario Galaxy, pour moi, c'est quelque chose amusant, enfin, les Mario, ça récupère toutes les étoiles dans les Mario 3D. Je les fais tous. Et après, par exemple pour Zelda, le 100%, je le fais quasiment jamais.
Quasiment jamais, c'est-à-dire tu fais pas les quarts de cœur.
Je fais pas les quarts de cœur, j'ai fait les 100 stocks que tu l'as une fois.
Ouais, enfin c'est pas.
Sur toutes les autres parties, je me suis arrêté à 50.
C'est pas foufou. La quête des Skulltula, je la trouve pas fofolle. Hein.
Ça dépend vraiment du jeu et de ce qu'on peut y faire. J'aime bien le faire le 100% dans Metroid par exemple. Mais je pense que de manière générale, je suis plus un finisseur. Je vais pas essayer d'aller à fond dans tous les jeux. Et ceux sur lesquels je me suis vraiment amusé, j'ai beaucoup aimé le gameplay et j'ai envie de continuer, je l'ai fait à 100%. Le seul jeu sur la dernière génération, il n'y a vraiment que deux où j'ai fait à 100% en dehors de Mario Galaxy. C'était Bayonetta et Resident Evil 8. Je me suis vraiment amusé sur ces jeux.
D'accord, mais Bayonetta, t'as fait le platine pur toutes les missions.
Alors non, j'ai pas le platine pur partout. Je suis très loin d'être aussi bon, mais par contre, j'ai fait toutes les missions, toutes les difficultés, j'ai tous les objets, et voilà.
D'accord. Donc, toi, tu étais de base plutôt un finisseur, et tu fais un 100%, soit quand le jeu te plaît, donc par amour, j'ai envie du jeu, soit quand le 100% représente éventuellement un intérêt quelconque.
Ah, c'est ça.
D'accord.
Même Xenoblade, que j'ai énormément aimé, je crois que j'ai voulu faire les quêtes annexes, et au bout de 2 heures, j'en avais marre, quoi. Après avoir fini le jeu, aller tuer des monstres à l'infini, ça me faisait chier, quoi.
Non, mais je peux comprendre. Kaliken, toi, tu... Pareil, plutôt finisseur ou plutôt quand j'achète un jeu, j'essaie de le finir à 100%?
C'est comme Antix, ça dépend un peu des jeux, ça dépend aussi de la période un peu. Enfin, je sais, quand j'étais plus jeune, j'avais moins de jeux, donc je les finissais à 100%. Je pense notamment à des jeux sur Super Nintendo, je sais pas, Secret of Mana, je l'avais tellement torché, c'était un truc de fou.
Les Mario... t'as eu tous les objets, t'as récupéré tous les familiers, ouais. T'as récupéré tous les sorts, tu les as maxés à 100%.
Secret of Mana, ouais, pour pouvoir avoir la petite animation de fou furieux à la fin, quand il se transforme et tout.
Ouais. Donc t'as tout eu 100%, quoi.
Je crois, il faudrait que je relance ma sauvegarde, mais je crois que j'avais vraiment fait un truc à fond les ballons dans Secret of Mana. Enfin bref,
pas mal.
Et ensuite, les Mario Galaxy, ouais, j'aimais bien avoir toutes les étoiles, mais après, il y a maintenant assez peu de jeux que je termine à fond. Dernièrement, il y a peut-être Mario Kart DS, ouais, que j'avais saigné, et puis sinon, c'est tout.
Et tu penses que c'est pourquoi ? C'est parce que maintenant, t'as plein de... Parce que finalement, maintenant, t'as accès à plus de jeux parce que t'as du pognon, maintenant, t'es grand. Ou est-ce que c'est juste une question de... Ça t'intéresse plus forcément d'essayer de débloquer tous les secrets
Ouais, c'est un peu des deux, parce que finalement c'est vrai que t'as plus de jeux, donc t'as envie de terminer un jeu et de te tourner vers un autre qui t'intéresse. Mais c'est vrai qu'après il y a des jeux qui te poussent pas vraiment à les finir à 100%. Quand c'est pour récupérer 2-3 cristaux ou je sais pas quoi, voilà. Mais si c'est un truc qui te permet vraiment de rajouter du fun et du gameplay, je pense notamment aux Mario Galaxy qui font ça très bien. Là c'est intéressant, je pense notamment à la toute dernière étoile de Mario Galaxy 2 qui donne au jeu une connotation super hardcore, vraiment vraiment chaude.
Oh, c'est, oui, c'était dur.
Voilà, j'en ai bavé pendant plusieurs jours.
C'était laquelle?
C'est un truc dans un niveau improbable.
Je crois que ça s'appelle le dernier challenge ou un truc comme ça.
C'est t'as... ça, t'as une vie en plus si tu le fais pour la toute dernière
seul, t'as, t'as un seul point de vie et tous les niveaux, c'est soit que des trous, soit des obstacles qui tuent en un coup, enfin qui tuent automatiquement.
Ah oui, d'accord, ouais, ok, je vois le truc. Parce que moi, je crois que c'est sur Super Mario Galaxy 1 où le niveau où j'en ai le plus chié, c'était le niveau qui ressemble à un Luigi géant. Ou un Mario géant.
Oui, en du feu, du machin. 8 bits, il fallait récupérer des pièces dessus.
Faut récupérer 100, ouais, 100 pièces horrible, dessus là. Et c'est juste le cauchemar.
Et en fait, à chaque fois que tu marches, les dalles disparaissent.
Ouais, ah voilà, oui, c'est stressant et puis c'est à moitié stratégique aussi parce qu'il faut pas marcher sur toutes les dalles du coup.
Et le problème, c'est que t'as un temps limité aussi.
Ouais, voilà, c'est
la truc horrible. Jusqu'au bout, quoi.
Et je sais pas, j'ai dû perdre quelque chose comme 130 ou 140 vies dessus, une connerie comme ça, mais j'ai passé... Enfin voilà, mais effectivement, mais c'est bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais par exemple, dans Super Mario Galaxy 2, est-ce que vous avez fait la seconde quête, c'est-à-dire est-ce que vous avez récupéré la 121e étoile qu'on
ouais, non.
ne peut avoir que quand on finit le jeu 100% avec Mario, puis 100% avec Luigi.
Oui, je l'ai fait.
Moi jamais.
Oh, Antix, le mec qui.
C'est dans le 2, c'est pas dans le 1, ça.
C'est dans le 1.
Ouais. Et mais Luigi qui dérape en plus. Cet enfoiré, il
se dérape un peu. Je suis mort moins de fois avec Luigi qu'avec Mario.
Ça, c'est parce que t'étais rodé.
Oui, c'est ça. Non, mais je l'ai fait, mais un an d'écart, quoi.
Ouais, d'accord.
J'ai fait Super Galaxy une première fois, et puis au bout d'un an, je me le referai bien, je vais le faire avec Luigi, hop, je vais tout faire.
C'est quand t'as oublié un peu le jeu que tu le redécouvres, en fait, au final.
Et c'était toujours aussi plaisant, d'ailleurs.
Ouais, voilà.
Et Fro, du coup, toi, tu finis les jeux,
Je suis absolument pas un finisseur de jeu à 100%, mais je crois que jamais, je crois.
T'as jamais fini un jeu à 100%.
Mais est-ce que tu finis tes jeux en ce moment?
Est-ce que tu les finis déjà? Est-ce que tu vas jusqu'au générique de fin?
Alors déjà, voilà, à trouver le temps de jouer, déjà. Ça, je commence à reprendre là, depuis un an, peut-être un an ou deux, à rejouer. Heureusement qu'il y a les 3DS sinantes, sinon j'aurais quasiment jamais la 3DS. J'arrive à me caler devant ma console de temps en temps, mais j'ai un peu de mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de jeux en fait sur tout ça. Donc je sais pas à quoi jouer. À être trop. C'est con à dire, hein, mais bon.
Mais c'est vrai, il y a plus de jeux. On devient vieux, donc on a moins de temps, donc c'est compliqué.
Il y a ça, et puis il y a peut-être aussi le fait que, moi me refaire un Mario, bon j'aime bien, mais bon j'ai 31 ans quoi. Et Mario, j'en ai fait je sais pas combien, donc. C'est comme FIFA, c'est pareil quoi, FIFA 15, j'en ai rien à foutre quoi, j'ai FIFA 2004, voilà, c'est parti, c'est... Ça me fait chier, quoi.
Ah, le vieux con.
Ouais, mais j'en ai pas racheté depuis 2004, hein. Donc
ah, tu rachètes pas ton édition annuelle, tu donnes pas l'aumône à Electronic Arts tous les ans, mais t'es vraiment un pauvre.
Donc faut vraiment que ça m'apporte de nouvelles choses. Vraiment, si c'est...
De temps en temps, tu te dis pas, t'as pas envie de te dire... Enfin, je sais pas, t'es sur un jeu, je veux dire n'importe quoi, t'es sur un Link Between Worlds, et tu te dis, ah putain, ouais, ok, je ramasse toutes les armes, j'achète toutes, je les max à fond, je récupère tous les quarts de cœur, je fais tout le truc, là, je fais le jeu 100% maintenant.
Si, ça, les Zelda, si, tout ça à 100%. Parce qu'il faut...
Tu vois,
par exemple, Mario Kart 8, je sais que je vais réussir à le faire à 100%, puisque ça me prendra du temps, je vais récupérer les pièces, les machins, les bidules. Je vais le finir, à un moment donné, je le finirai. Mais après, je sais plus, parce que j'ai comme... Bah, genre, Hyrule Warriors, par exemple, je sais que je vais le finir, mais jamais à 100%, quoi.
Non, mais Hyrule Warriors, c'est un jeu de masochiste.
Voilà.
Non, mais c'est celui qui m'a inspiré ce sujet, c'est... Je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un...
C'est plus de 200 heures, Hyrule Warriors.
Voilà, mais avec un guide, tu passes plus de 200 heures déjà. Avec un guide, c'est-à-dire quand t'es à la découverte et que tu vas complètement aux fraises, mais tu dois passer, ça doit être horrible quoi. Le mode aventure, c'est juste, tu recommences chaque carte 5 fois avec 5 personnages différents et à chaque fois c'est 10, 15, 20 minutes de mission. Enfin, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à se dire je vais faire un 100% sur Hyrule Warriors quoi. C'est-à-dire je récupère toutes les médailles. Toutes les scouts,
si, un gamin qui a que 2-3 jeux sur la console. Avant, moi j'ai joué des heures et des heures et des heures à Tetris sur Game Boy, parce qu'au début j'avais que ça, j'avais juste Tetris sur la Game Boy. Et je suis devenu triste là-dessus, hein. Maintenant c'est Tetris, j'ai un niveau dingue. Mais c'est parce que j'avais que celui-là. Et je l'ai plié pendant des heures et des heures. Et c'est parce que j'avais qu'un jeu. Mais là quand on a une trentaine ou une quarantaine sur ta console, il n'y a pas d'intérêt quoi, de finir un jeu à 200%.
Et donc du coup, c'est quoi le genre de jeu que vous préférez finir à 100%? Enfin, il y a un genre de prédilection, par exemple, Antix, tu m'as dit, toi les Mario, tu les fais systématiquement à 100%, mais il y a d'autres jeux de plateforme, il y a d'autres jeux de ce type-là que t'essayes de finir comme ça, ou c'est vraiment spécifique, genre les Mario, je me les fais à 100% quoi qu'il arrive?
Moi, je pense que les Mario 3D, c'est assez spécifique. En plateforme, dernièrement, il y a Donkey Kong Returns, où j'avais récupéré toutes les Kong pour avoir tous les niveaux. Et j'ai pas fait toutes les pièces de puzzle, parce que là, c'était...
Oui, mais voilà. Ouais, c'est mais chiant. Ça, par exemple, tu récupères toutes les lettres parce que ça te débloque des niveaux.
C'est ça, en fait, moi, l'intérêt de débloquer...
Si ça te donne juste un succès pour te branler sur des chiffres, enfin, on voit pas l'intérêt.
Non, pour moi, ça n'a aucun intérêt.
C'est ça, les Mario et les Donkey Kong, ça rapporte vraiment quelque chose au niveau de l'intérêt du jeu, quoi. C'est ça qui les différencie.
Oui, c'est pas juste de la collectionnite, c'est...
Voilà,
c'est...
moi, j'ai l'impression que le finissage à 100, 150%, c'est... Ouais, vous avez vu, regardez sur ma fiche du PSN ou sur ma fiche Xbox Live, et j'ai platiné
ou sur ma fiche Miiverse. Attendez,
voilà. Sur mon compte Miiverse.
Et je suis même,
sur mon compte Miiverse.
Voilà, je suis même bien contente que Nintendo le fasse pas, parce que c'est après c'est la course à qui est la plus grosse, à qui a terminé le nombre de jeux. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Tu joues parce que t'aimes bien, tu fais ton jeu parce qu'il est
surtout
cool.
Surtout que si tu joues à qui a la plus grosse, Sirar va te battre.
Oui, c'est
déjà,
ça.
Tu peux pas lutter quoi.
Ah bah là, je peux pas lutter.
Ah, c'est mort, personne peut lutter.
Alors après, sans forcément faire du 100%, moi j'aime toujours les défis annexes, les boss optionnels, surtout dans les RPG parce que c'est là où il y en a le plus. Mm. Parce que c'est là où on va voir si t'as réussi à comprendre le jeu ou pas.
C'est le défi intellectuel en fait. C'est-à-dire, si tu finis le jeu normalement, finalement, tu peux bourriner sur le bouton A, ça marche. Mais si t'as vraiment compris comment ça marchait stratégiquement, t'es capable de battre les boss optionnels.
Bah c'est un peu ça en fait. Pour certains,
il a pas faux. Il a pas faux.
Enfin voilà, comme j'ai dit, et Fro et Kaliken ont été d'accord sur ce point-là, c'est faut que ça apporte quelque chose. Et pour, par exemple, les cartes de cœur, là, j'en ai rien à foutre, parce que si j'ai fini le jeu, c'est que j'ai battu le boss final, et du coup, j'ai pas l'intérêt de me battre avec 20 cœurs alors que j'en ai déjà 15.
Oui, si c'est suffisant,
pour moi, l'aventure était finie, c'était plaisant, j'ai pas envie de me faire chier à faire des mini-jeux à la con.
D'accord.
Bah ça, c'est
souvent ça qu'en fait qui fait que je fais jamais le 100% de Zelda.
Alors attendez, du coup je comprends. Aujourd'hui vous êtes en train de me dire c'est de toute façon les jeux où il y a de la collectionnite, ça vous intéresse pas, ce que je peux comprendre. Hein. Mm-hmm. Je prends un Donkey Kong 64, le finir à 100%, c'est le cauchemar.
Ah bah j'ai pas aimé pour ça.
Il est fait
Donkey Kong 64. Hein.
Quelqu'un a été jeune, il a fait Donkey Kong 64.
Moi j'ai bien aimé.
Alors
oui, Kaliken, je te soutiens, je crois que c'est un de mes jeux préférés sur une 64.
C'est juste que c'est le cauchemar, tu dois refaire le jeu 5 fois, une fois par personnage en gros.
Ouais, quasiment, ouais. Et puis il faut choper toutes les bananes, machin, enfin c'est...
Attends, toutes les bananes, les plans bleus,
ouais, les couleurs
les
différentes,
plans rouges, les deux pièces, la pièce Nintendo, la pièce rare, ensuite
la pièce
t'as...
rare qui est impossible, horrible à voir.
3500 bananes de chaque couleur, puis 3500 grandes bananes, puis je sais pas...
Mais ce n'était pas la même époque, monsieur.
Mais oui,
aussi,
voilà, c'était pas pareil.
Dans le même genre, Mario 64 et Banjo-Kazooie étaient bien meilleurs. Dans le genre collectionniste, c'était mieux dosé quand même.
Aussi, ouais.
Non, alors je vous rappelle quand même que le Donkey Kong 64 est dans le Guinness Book des records du livre, du jeu... le plus d'items à récolter.
Ça c'est bon.
Et ben voilà, j'en ai terminé un à 100%, voilà. Mais je crois que c'est même 101% normalement.
C'est pas 102 avec les deux pièces, justement.
101 ou 102, je sais plus, ça dépasse le 100%.
C'est comme Donkey Kong Country, quoi. C'était
c'est comme 100%. La référence là, sur celui sur Super Nintendo. Vous pouvez faire 101% sur le 1, 102, 103 sur le 2 et le 3.
Ou les Sculptulador dans Ocarina of Time. Tu peux en avoir plus de 100 si t'arrives à faire le petit salto arrière qui va bien.
Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est.
Oui, mais normalement il y a l'accent.
C'est pas une méthode officielle, ça.
Mais oui,
c'est pas la méthode officielle. Mais d'accord, donc la collectionnite, à part Donkey Kong 64, la collectionnite, ça vous intéresse pas. Mais est-ce que vous êtes déjà dit, ok, je vais le finir pour le gameplay, mais je pense à un truc comme le Resident Evil sur GameCube.
Au couteau, faut finir au couteau, c'est ça.
Voilà, tu le finis en moins de 3 heures, tu débloques le mode difficile, tu le finis le mode difficile en moins de 3 heures, tu débloques, et seulement au couteau, tu débloques je sais pas quoi, et tu finis par débloquer le mode zombie invisible kamikaze, où tous les zombies sont invisibles et il y en a un qui te suit et qui explose à ton contact. Enfin voilà, c'est le truc.
Ça, c'est drôle.
Voilà, est-ce que vous en êtes là, ou est-ce que là c'est vraiment juste la difficulté qui vous
arrête? Moi, ça me rappelle une anecdote sur.
Ça, c'est la difficulté.
Sur Deus Ex, le dernier. Où en fait tu peux finir le jeu sans tuer une seule personne. Et
oui,
en gros,
sauf les boss.
Ouais, sauf les boss. Et en fait, moi j'avais commencé le jeu et tout. Et en fait, j'ai jamais eu le débloqué le truc parce que le prologue, il faut tuer personne également. Mais le prologue, sauf que les mecs ils arrivent, ils te défoncent. T'es obligé d'avoir un fusil, donc je croyais que c'était pas considéré comme.
Oui, tu peux pas les take down.
Voilà, tu peux pas les paralyser ou les trucs comme ça. Mais ce genre de petit challenge, ça peut être sympa si ça peut être expliqué par le scénario.
Mais
ou,
d'ailleurs, il y a aussi d'autres jeux où ils ont fait des challenges, genre le Nuzlocke Challenge de Pokémon, qui est presque proche de l'autisme. Puisque, si un Pokémon tombe à 0 point de vie au combat, et ben tu l'enlèves de ton équipe, quoi qu'il arrive. Et tu ne peux capturer que le premier Pokémon que tu rencontres dans chaque zone. C'est-à-dire que si tu rencontres un Rattata dans toutes les zones, tu n'auras qu'un Rattata.
Putain, mais le challenge d'autiste, c'est clair.
Ah, oui, c'est ça.
Et après, t'as les ou les Fire Emblem, est-ce que vous relancez votre sauvegarde quand vous perdez un perso? Enfin, c'est un peu
toujours,
le même style, en fait.
Toujours, voilà. Tout le monde doit survivre.
Voilà.
Moi, je joue en facile.
C'est tout le temps. Voilà,
t'as ceux où tu joues qu'avec un seul personnage aussi. Ça,
c'est les mecs, voilà, le permades. Non, reset. Reset la console. Donc les mecs, ils disent ok, je vais le finir à 100%, mais jamais je recommence à zéro si je perds un truc. C'est reset direct.
Voilà, donc.
Ah, mais
tu
recommences la mission depuis le début, hein. Quand ta mission elle fait une heure et que tu te fais niquer par le boss par un coup critique à la con. Tu l'as mauvaise quand tu recommences. C'est du vécu.
Chez Nintendo, généralement, les 100% t'apportent quelque chose. Soit un nouveau niveau, soit un nouveau personnage,
machin. Il y a un jeu où si t'arrives.
C'est assez rare que ça apporte rien.
Il y a un jeu pour lequel d'ailleurs j'ai aussi des problèmes de 100%. C'est Super Smash Bros. Je dois avoir tous les trophées et à chaque fois il m'en manque un.
Putain, mais attends, Super Smash Bros, c'est pas.
Non, mais faut
là,
faut
on est dans la collectionnite pure, tu te rends compte, Antti?
Ah oui,
t'es en train de te contredire là.
Je sais.
Attends, il est contre l'amiibo, mais il collectionne des figurines virtuelles dans un jeu.
Ah, j'ai pas fictive. De problème avec les amiibo.
Fictive.
Non, mais moi, j'ai entendu que j'avais des problèmes avec les amiibo.
Moi, à un moment, sur Super Smash Bros Melee, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'avoir tous les trophées, ça doit pas être si difficile que ça. Arrivé à je sais plus combien, je me suis dit, ok, je vais peut-être arrêter parce que là, ça devient un peu gore quoi.
Mais Melee, t'en avais un où fallait avoir genre tous les bonus qui te mettaient à la fin des niveaux. Et il y en avait un des bonus, c'était de faire le mode aventure sans se faire toucher une seule fois. Je sais pas si tu te rends compte de la difficulté de la chose.
Bah, tu te mets en super facile.
Même ça, ça marche pas. J'ai essayé.
À 4.
Je me suis arrêté à Ice Climber.
Ouais, super facile à 4 et avec les 3 qui protègent 1, à la limite.
Ouais, mais c'est le truc, faut tricher.
Ah oui, c'est en solo, non, c'est que
le solo
mode aventure. Ouais, c'est qu'en solo, ouais.
Non, c'est super dur.
Ah, donc c'est super tendu.
Mais attendez,
alors pour revenir sur l'histoire des trophées, moi ce que j'aime beaucoup dans les trophées de Smash Bros, c'est même si au niveau gameplay ça apporte rien, c'est tous les petits textes où ils te présentent les personnages et ça m'a fait découvrir des tas de personnages ou de jeux que je connaissais pas, surtout à l'époque de Melee.
Ouais, c'est un côté encyclopédique.
Là, c'est cette partie-là qui est vraiment super intéressante. Enfin, que moi j'apprécie beaucoup et qui fait que j'arrive à.
Bah,
c'est à des rares.
Comme les Grand Turismo.
Cette collectionnite à la con, quoi.
Mais c'est ce que tu disais en fait, les jeux Nintendo, ils apportent vraiment quelque chose quand tu les finis à 100%. C'est pas juste histoire d'eux, c'est voilà, je t'offre en
oui,
plus
c'est
quelque
pas
chose.
Un, voilà, c'est pas comme un Assassin's Creed où quand t'as ramassé tout, ben tu gagnes une capuche.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu naze.
Bah, c'est vrai, pour avoir tué tous les pigeons dans GTA, ouais.
Voilà. C'est le principe des succès. Le principe des succès, ça n'apporte rien, à part une compétition interne entre les joueurs.
Alors, c'est juste ça. Il y avait un jeu où les succès apportaient quelque chose. C'était Dead Rising sur Xbox 360. Et t'avais certains succès qui te permettaient d'avoir le costume de Mega Man. T'avais son buster, t'en avais un, t'avais le casque, t'en avais un, t'avais les jambes. Ça, c'était assez cool.
Ouais, mais ça, encore une fois, ça c'est un des premiers jeux. C'était à l'époque où les développeurs avaient 2-3 idées faire avec des nouvelles licences. Puis à
maintenant,
donné,
ils te vendraient un DLC avec les jambes, un DLC avec les bras, un DLC avec le casque.
Bah, tu sais, je pense qu'ils pourraient même vendre des DLC de succès, au final.
Oh putain, ouais. T'imagines les trucs, on te vend le fait de compléter un jeu. C'est quand même
les développeurs t'entendent, là, ils vont peut-être déjà le préparer.
Vous voulez des succès, bah, c'est 5€ en plus.
Voilà. Vous voulez avoir le succès pour avoir lancé le jeu, et bien faut payer le DLC.
Oh putain.
Il y a bien des gens qui achètent certains jeux parce que les DLC, enfin parce que les succès sont faciles à avoir. Harry Potter et tout, je crois que c'est tu finis le jeu, t'as mis G.
Il y avait des gens qui faisaient ça avec les jeux Kinect au début parce que les succès étaient vachement faciles à avoir.
Mais même Microsoft avait proposé un succès pour acheter la console le jour même. T'avais acheté la Xbox One le jour même, t'avais un succès.
Hein. Ouais, t'as le Day One.
Oh putain, mais c'est pas possible.
Donc c'est du marketing au final. Hein. Nintendo n'est pas là-dedans parce qu'ils ont du mal, ils sont tout le temps à la ramasse au niveau du marketing. Tant mieux pour nous. Donc pour eux, en fait, terminer un jeu à 100%, c'est bonus pour des nouveaux trucs, quoi. comme pour Mario Kart,
mais,
quoi.
Mais est-ce que ça te sert vraiment à quelque chose? Est-ce que tu vas, je te donne un exemple tout con, hein, mais tu finis un jeu à 100%, donc du coup tu débloques une arme ultra puissante. C'est le grand classique, tu débloques l'arme la plus puissante du jeu quand tu le finis à 100%. Est-ce que tu vas te refaire une partie en New Game Plus pour aller voir si tu exploses tous les boss en un coup?
C'est très rare. Les New Game Plus, dès que ça arrivait, ça m'a énervé en fait, parce que on était à une époque, on avait quand tu lançais un jeu, t'avais soit un mode facile, normal ou difficile. À partir de la 3DS ou peut-être même un peu avant, les New Game Plus sont arrivés. Donc en fait, on avait le mode normal. Et si t'avais pas envie de jouer en normal, bah fallait quand même se taper en normal pour débloquer le mode difficile. Et ça m'a tué pas mal de jeux en fait. Il y a des certains jeux, tu sais, enfin voilà, c'est le 30e de la série, tu peux le faire en mode difficile direct, quoi. J'ai pas d'exemple en tête.
Non,
mais
je vois ce que tu veux dire.
Je sais plus si c'était pas Kid Icarus par exemple. Non, c'est pas Kid Icarus.
Non, Kid Icarus, tu règles la difficulté.
Ouais, tu règles la difficulté. Ça, c'est
en fonction de la thune que t'as.
Je sais plus quel jeu. Enfin, il y a pas mal de jeux comme ça où faut se le taper en normal et après t'as le droit à la vraie difficulté, quoi. Enfin, c'est un peu.
Ouais, c'est pourri.
Les Fire Emblem GameCube, et oui, je crois que c'était comme ça, mais enfin, le jeu est déjà suffisamment dur en normal pour la majorité des gens, donc bon.
Ouais, le jeu en normal, déjà, c'est balèze.
Ah, c'est quoi le Fire Emblem sur GameCube en mode difficile? T'arrives sur la carte, tu meurs, hein, c'est un truc comme ça, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Ça, c'est celui sur Wii, par contre. Le Wii en mode difficile, t'arrives sur la carte, tu meurs, globalement. Hein. Tes personnages meurent en un coup au début du jeu. Mais sur Awakening, par contre, ils avaient mis toutes les difficultés, enfin. La difficulté la plus dure était cachée. Fallait finir le jeu dans la difficulté en dessous, qui était déjà super dur. C'était le mode très difficile, globalement. Hein.
C'est ça le problème, c'est quand t'as 3 jeux, ça va, mais quand t'en as beaucoup, tu vas pas te taper 40 heures sur un jeu pour ensuite le refaire pour 40 heures.
Pour ensuite te retaper 120 heures parce que le truc est plus
dur. Oui, non, c'est pas possible.
Ce que tu veux dire.
C'est pas possible.
Ok, bon bah, je vous remercie d'avoir participé à ce petit débat. Je pensais que vous seriez un petit peu plus. Finalement, vous êtes quand même des gros fanboys. Vous aimez bien quand même finir le truc à 100% et ramasser tout.
Bah, globalement, non, quoi. C'est sur 400 jeux, je dirais. En gros,
C'est quelques jeux.
Globalement, bah, c'est sur quelques jeux particuliers.
On serait vraiment des gros gamers qui termine les jeux à 200%, on serait même pas là en train de faire un podcast, on serait en train de jouer.
Ouais, vous seriez en train de jouer pendant le podcast. Genre, ça y est, c'est bon, j'ai débloqué la 1000ème étoile.
D'ailleurs, je crois que j'ai fini mon match de Smash Bros.
D'accord, le mec il joue en direct en fait, ça fait partie.
Exactement. Oh là là.
Ouais. Je peux pas faire deux choses en même temps, c'est pas possible.
Eh bien, merci tout le monde, on va se quitter là. Méduse, on pense bien fort à toi, j'espère que tu seras là dans 2 semaines.
On lui fait des bisous.
On lui fait des gros bisous sur la quéquette. Non, pas du tout là. Non, ça on peut pas. Voilà.
Sur les tentacules.
Sur les tentacules. Comment c'est passé du tout ce que tu dis. Voilà.
Je crois que c'était sexy la quéquette.
J'ai pas dit ça.
C'est des japonais, les tentacules, c'est sexy. Hein. Attends.
C'est sexuel à la limite, mais pas très sexy.
En fait, c'est peut-être ça l'inspiration de Méduse. C'est je suis un poulpe et je vais te.
Tentacule hentai.
Il est allé au Japon et ça a inspiré.
D'ailleurs, c'est à ça que vont servir les amiibo pour ce que les japonais se soulagent dessus et fassent des photos dessus.
Oh non.
Ah si, ça existe, vous savez très bien.
Tu nous as cassé tout le podcast. Bah oui, tu nous as tout pété là.
Sérieux,
ils nous ont tout cassé.
On va se prendre un Peggy 18 plus.
Oui, Peggy 18, voilà, super.
On avait réussi à le maintenir en dessous de 16.
Allez, bien joué, franchement bien joué. Bon, et bien, au revoir tout le monde et à dans 2 semaines. Salut.
Ciao.
Salut.